America is booming. America is thriving. And America is winning because we are finally putting America first. It's been a long time. It's been a long time.
L'Amérique est en plein boom, l'Amérique prospère, elle gagne parce qu'enfin, c'est l'Amérique d'abord et ça faisait longtemps. Ainsi parle Donald Trump en campagne pour les midterms. Costume noir, cravate rouge, dans le Wisconsin, on le voit sur l'estrade face à ses électeurs. Des bras agitent des panneaux, achetez américain, recrutez américain et puis aussi garder à l'Amérique sa grandeur. Sous-entendu, la récupérer c'est fait, America great again c'est fait. Le vote, ce sera mardi prochain et ce samedi dans le Mag'Écho, justement, nous questionnons. Est-ce vraiment fait? L'Amérique va-t-elle si bien que cela? La réponse nous intéresse parce que, bien sûr, si les US vont bien, nous allons mieux. Et puis, on voudrait aussi savoir ce que donne, 2 ans plus tard, un populiste au pouvoir. Alors ce matin, débat grand format avec notre spécialiste récurrente de l'économie américaine. Bonjour Florence Pisani.
Bonjour.
Et Emmanuel Lechypre de BFM Business. Bonjour Emmanuel.
Bonjour à tous.
Il sera aussi dans ce studio, c'est l'invité du Mag'Écho, un économiste influent, Philippe Martin, le président délégué du Conseil d'analyse économique, conseil chargé d'éclairer les choix du gouvernement. Et c'est aussi un proche d'Emmanuel Macron, interview vers 9h45, juste avant ma vie au boulot, Sandrine Foulon. Mais tout de suite, pour l'économie américaine, Donald Trump fait-il du bon boulot?
France Inter, on n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Florence Pisani, vous êtes économiste chez Candria. Merci d'être avec nous. La dernière fois que nous avons ausculté ensemble l'économie américaine, c'était il y a 2 ans exactement, n'est-ce pas? Juste avant l'élection qui a propulsé Barack Obama à ce moment-là à la Maison-Blanche. Florence, est-ce que l'économie, le climat économique, ça fait le vote, ça fait l'élection?
Alors ça a toujours été, hein, quand on regarde les élections américaines, un élément traditionnellement important du vote. Quand on regarde cette campagne, c'est pas le cœur du débat. Hein. Le cœur du débat aujourd'hui, il y a 2 sujets qui sont récurrents. Il y en a un, c'est l'immigration, le problème de l'immigration. Et Trump a beaucoup porté la campagne sur ce sujet-là. On a d'ailleurs des républicains qui commencent à râler un peu hein, sur le fait qu'on met pas en avant l'économie, mais qu'on le porte sur l'immigration. Et puis le deuxième, c'est la réforme de la santé. Là aussi, paradoxalement, il y a beaucoup d'Américains. Trump voulait revenir sur la réforme de la santé et beaucoup d'Américains sont relativement attachés au fameux Obamacare.
Juste un mot sur l'immigration, plus qu'un mot même. Est-ce que c'est une question identitaire ou est-ce qu'il y a quand même une forte dimension économique pour les États-Unis?
Alors il y a une dimension économique, hein. Si on regarde la croissance de la population, il faut rappeler qu'on est dans une économie qui s'approche du plein emploi, l'immigration a toujours fourni une partie importante hein, de la croissance de la main-d'œuvre, en particulier dans certains secteurs, dans le secteur du commerce de détail, dans le secteur de la construction, et donc c'est un des éléments essentiels hein, de la croissance de l'économie américaine. Donc se priver d'immigration, c'est sans doute un énorme problème sur les années à venir aux États-Unis.
Emmanuel Lechypre, si on regarde les chiffres, l'économie, il a raison quand même, Donald Trump, c'est en plein boom et ça prospère. Ils sont impressionnants ces chiffres.
C'est en plein boom. Ce qui est compliqué, si vous voulez, c'est que cette économie américaine, elle est dans son cycle le plus long, quasiment, on va dire, de son histoire. Mais il faut rappeler que ce cycle, il démarre après la grande crise de 2008, que cette crise de 2008, c'est une de ces crises liées à la fois à une crise immobilière et à une crise financière, et donc on sait, nous disent les économistes, qu'en général, elles sont 2 fois plus faibles en matière de croissance, 2 fois plus faibles en matière d'inflation, 2 fois plus faibles en matière de création d'emplois, et qu'elles sont aussi beaucoup plus lentes à se déployer. Ajoutez à ça une politique monétaire qui a été complètement repensée pour justement s'adapter à la crise avec des taux d'intérêt nuls. Et donc, si vous considérez qu'effectivement, au bout de 9 ans, avoir une croissance de 2,5 à 3%, un chômage effectivement très faible, mais au prix de taux d'intérêt nul, au prix d'un déficit budgétaire qui se creuse. Parce que n'oubliez pas que ce qu'a fait Trump, c'est remettre du charbon dans la machine économique. C'est en gros comme si vous aviez quelqu'un, si vous voulez, qui brûle les meubles de la maison pour maintenir la température, alors que vous aviez déjà quelque chose qui allait très bien.
Mais si vous vous mettez à la place de l'électeur américain, là, et Florence,
alors, l'électeur américain, l'économie, ça compte, oui, parce que on le voit bien, si vous cherchez, comme le font par exemple tous les économistes de l'école des choix publics, popularisé en France notamment par les travaux d'Electionscope, à expliquer le vote des Américains par l'économie, vous y arrivez depuis la Deuxième Guerre mondiale, tout le temps, sauf 2 fois, qui sont, un, l'élection de Nixon en 68, mais parce que c'est la guerre du Vietnam, c'est particulier, et puis l'élection de Trump. Mais parce qu'on est dans un contexte qui est quand même très particulier. Et puis, moi, vous me dites, cette économie américaine, elle va bien. Oui, la croissance. Si vous regardez les chiffres macroéconomiques, ok, la bourse
regardez
impeccable.
On fait la photo, comme la d'habitude.
La photo, la croissance 3%, le chômage très bas, pas beaucoup
3,7%.
D'inflation. 3,7%. Effectivement, mais d'abord, ce qui me frappe, c'est que l'économie qui gagne, c'est l'économie américaine mondialisée. C'est l'Amérique mondialisée. L'Amérique qui gagne, c'est l'Amérique des GAFA. C'est l'Amérique de Google, d'Amazon, de Facebook, d'Apple. C'est pas l'Amérique de la vieille industrie qui, derrière, justement, les GAFA, est quand même relativement peu compétitive. C'est l'Amérique de l'entertainment, c'est l'Amérique de la finance, l'Amérique de Netflix. Tout ça, c'est l'Amérique mondialisée. L'Amérique américaine, telle que la rêve de Donald Trump, elle est aujourd'hui dans un piteux état. Je vous rappelle qu'il y a quand même 60 millions d'Américains qui sont sortis du marché du travail. Alors, on peut se gargariser du fait que effectivement les entreprises ont du mal à trouver de la main-d'œuvre, mais effectivement, quand vous avez 60 millions d'Américains qui sont out,
qui sont trop loin de l'emploi. Hein.
Trop loin de l'emploi, etc. Est-ce qu'on peut se satisfaire de cette situation ?
Florence, est-ce que vous partagez cette photographie ? Vous, la photographie, est-ce qu'elle ressemble à celle d'Emmanuel de Chypre ?
Elle ressemble assez à celle d'Emmanuel. Hein. Moi, je vais donner deux chiffres. Les États-Unis, en matière de PIB par tête, c'est parmi les économies.
Alors, le PIB par tête, c'est la richesse.
La richesse par habitant. Parmi les économies hein, qui sont dans le haut de la pyramide. On a un PIB par tête, ils sont cinquièmes en niveau de PIB par tête. Si vous regardez en matière de progrès social, d'indice de progrès social, ils sont 25e. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ben, il y a plein d'indicateurs, mais on a aujourd'hui un taux de mortalité infantile qui était le même que celui de l'Allemagne en 80, qui est aujourd'hui double de celui de l'Allemagne. Les mauvaises langues disent qu'il est même supérieur à celui de Cuba. On a une espérance de vie qui a arrêté de progresser aux États-Unis, alors que dans toutes les économies développées,
Florence,
l'espérance de vie monte.
Symboliquement, l'espérance de vie aux États-Unis est devenue inférieure à l'espérance de vie en Chine. Hein, ça vous dit quelque chose quand même sur la trajectoire des deux pays.
On a un taux d'incarcération qui est 5 fois la moyenne des pays de l'OCDE. On a des inégalités en matière de revenus qui sont extraordinaires. Hein. Si vous regardez la part des 0,1% qui gagnent le plus dans le revenu national, c'est la même que la part des 50% qui gagnent le moins. Hein, donc on a, en matière de progrès social, ça fait maintenant des décennies qu'il n'y a plus de progrès social. Hein, c'est une économie qui a du mal à produire du progrès social.
Et ça, c'est la faute de Trump, juste sur la mortalité.
C'est absolument pas la faute de Trump. Voilà. Hein, c'est des évolutions de long terme qui étaient engagées depuis maintenant plusieurs décennies.
Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas fait de filet de sécurité sociale ? Parce que, enfin, je pense à la mortalité infantile,
parce qu'il y a,
à l'espérance de vie ?
D'abord, il y a plusieurs choses. Il y a une préférence aux États-Unis pour le libéralisme, hein, qui est là depuis des décennies, et que face aux mutations structurelles, il y a effectivement tous les filets sociaux qui fonctionnent pas très bien. Il y en a très peu aux États-Unis. Il y a l'idée qu'il faut travailler hein, pour mériter son filet social. Et compte tenu des mutations structurelles auxquelles font face la plupart des économies développées, l'ouverture à l'international, l'automatisation, tout ça, ça génère hein, des problèmes. Quand vous perdez votre emploi dans le secteur manufacturier, qui était un emploi bien rémunéré, eh bien vous avez, et c'est le cœur de l'électorat de Trump,
absolument,
vous avez du mal à en retrouver un autre aussi bien rémunéré, parce que les métiers qui sont créés dans d'autres secteurs. Ils sont créés dans des secteurs de la santé qui nécessitent un minimum de formation. Il n'y a pas d'aide à la requalification, à la formation. Et tout ça, ça laisse sur le carreau, entre guillemets, une partie des Américains. Et c'est des mutations structurelles auxquelles toutes les économies développées font face. La différence, c'est qu'il y a peu de filets de sécurité aux États-Unis.
Donc des bons chiffres, on les a dit, hein, les chiffres de la croissance, les chiffres de l'emploi, mais une photo d'une Amérique profondément inégalitaire. Emmanuel ?
Et d'une Amérique aussi qui est...
Divisée, vous l'avez dit, l'industrie et puis les services.
Oui, c'est-à-dire, en fait, aujourd'hui, les États-Unis portent mal leur nom, ce serait plutôt les États désunis, d'ailleurs, parce que quand vous regardez les spécificités économiques de chacun, moi, je suis frappé de voir, par exemple, que, oui, on l'a dit, l'Amérique, c'est un géant culturel, c'est un géant financier, c'est un nain commercial. C'est un pays qui pèse 10% des exportations mondiales, parce qu'encore une fois, derrière cette espèce d'éblouissement qu'on a pour tout ce qui est nouvelles technologies, l'industrie traditionnelle va mal. Alors, il y a bien eu une espèce de déplacement des industries des États du Nord vers les États du Sud, qui sont plus compétitifs, dans lesquels les coûts salariaux sont plus bas, etc. Mais regardez l'industrie automobile américaine. Aujourd'hui, au niveau mondial, c'est une industrie qui n'est pas compétitive par rapport à ses concurrentes européennes et américaines. Et puis, ce qui me frappe aussi dans tout ce que dit Trump, c'est cette extraordinaire préférence pour le présent. C'est-à-dire que tout ce que fait Donald Trump, c'est pour améliorer le présent. présent des États-Unis, mais au détriment de leur futur.
Florence Pisani, café, on y vient, café Donald Trump en 2 ans. Sa promesse, c'était jobs, 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 des emplois et make America great again. Il a fonctionné comment ?
Alors, paradoxalement, d'abord, il y a un décalage entre la parole et les actes de Trump. Si on regarde ce qu'il a fait, il a fait d'abord une grande réforme fiscale qui bénéficie pour les, donc des baisses d'impôts d'abord sur les ménages, qui bénéficient très largement aux ménages les plus riches, les ménages les plus aisés. Si vous regardez les 20% qui gagnent le moins aux États-Unis, ont vu leur salaire après impôts augmenter de 0,4%, c'est-à-dire ça représente $60. C'est pas grand-chose. Si vous regardez les 0,1 qui gagnent le plus, eux, ils ont des allègements fiscaux qui ont représenté plutôt $200,000. Donc c'est nettement plus significatif. En gros, la moitié en masse des baisses d'impôts est allée aux 5% qui gagnent le plus. Donc contrairement à ce qu'il disait, c'est-à-dire une réforme qui bénéficie à tous les Américains, elle a massivement bénéficié aux ménages les plus aisés. Deuxième volet de la réforme, les baisses d'impôts sur les sociétés. Ce que disait Trump, c'était vouloir relancer l'effort d'investissement productif des entreprises. Quand on regarde la réalité, on a des enquêtes de la Réserve fédérale d'Atlanta. Si on regarde aussi les chiffres même du premier semestre, on voit que la baisse d'impôts a été très largement utilisée non pas pour investir, mais essentiellement pour racheter des actions. Si vous regardez les rachats d'actions sur le premier semestre, on est sur des niveaux qui sont de l'ordre de 700-800 milliards de dollars en rythme annuel. Donc il n'y a pas eu de rebond de l'effort productif et on voit même plutôt un essoufflement de l'effort productif sur le troisième trimestre. Troisième élément, cette réforme, elle était censée se financer par elle-même. Et on sait bien que c'est pas vrai, que le supplément de croissance, pour l'instant, génère pas assez de revenus par rapport aux baisses d'impôts.
Oui,
c'est la même fable.
On lui reproche, oui, c'est ça, on lui reproche de dépenser trop, de dépenser trop. Et il dit, mais vous allez voir, on va faire de la croissance, ça va marcher. Et là, ça ne marche pas.
C'est la fable qu'on nous avait racontée dans les années 80, quand on avait eu la politique de Ronald Reagan. On sait bien que ça dégrade plutôt l'équilibre budgétaire. On a un déficit de l'État fédéral qui était à 3,5% et qui va monter à 5,5% sur les deux prochaines années.
Est-ce qu'on peut dire, est-ce que son action à Donald Trump est foncièrement différente de celle des prédécesseurs ? Je demande ça parce que vous citez Trump. Est-ce qu'il fait autre chose finalement ? Il baisse les impôts, il fait des dépenses. Est-ce que c'est quoi ?
Ce qu'il caractérise, c'est surtout les incohérences qu'il y a entre ces différentes mesures de politique économique. Si vous prenez ce qu'avait fait Barack Obama ou Bill Clinton par exemple, il avait une stratégie très claire qui était de dire. Les taux d'intérêt sont maintenus à des niveaux extrêmement bas. La rigueur budgétaire est importante. Et donc, on avait cette logique où on avait un policy mix dans lequel on essayait d'être rigoureux sur le plan des finances publiques, mais généreux sur le plan monétaire. Rappelez-vous quand même, à la fin des années 90, on s'inquiétait du risque de disparition de la dette publique américaine parce que les États-Unis avaient n'avaient plus de déficit budgétaire. Et on se disait, mais comment on va faire sur les marchés financiers si on n'a plus cette référence
ouais, non,
mais
ça voyez comme très, très loin.
Vous voyez comme les choses vont très vite. Ouais. Moi, ce qui me frappe, Reagan, il y avait une cohérence aussi chez Reagan. Même si on dit que c'est les plus fortes baisses d'impôts depuis Reagan, il y avait la relance keynésienne, la dépense par l'investissement, la relance militaire, etc. Là, moi, ce qui me choque, c'est les incompatibilités dans ces mesures. Par exemple, dire jobs, 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 alors que effectivement, on est quasiment au plein emploi par rapport aux gens employables et qu'en même temps, on refuse l'immigration, c'est absurde. De dire qu'on veut du pouvoir d'achat et qu'en même temps, on encourage le protectionnisme, c'est absurde puisque vous savez très bien que dans le monde d'aujourd'hui, les mesures protectionnistes, les taxes protectionnistes, ce sont les consommateurs de votre pays qui vont les payer.
On a une politique économique qui est complètement schizophrène. Voilà. D'un côté, on stimule par le budget. Et de l'autre côté, on freine par la politique monétaire. Parce que la politique monétaire, elle n'a pas le choix, elle fait son travail.
La politique monétaire, c'est pas Trump, c'est la réserve fédérale.
C'est la réserve fédérale, on s'approche du plein emploi.
Oui.
Et donc la banque centrale, elle est obligée de relever le niveau des taux pour freiner l'activité. Et de l'autre côté, on la stimule.
En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que Donald Trump, vous l'avez dit, Emmanuel, vous l'avez dit, Florence, il met du charbon dans la machine, il la fait chauffer. Et en fait, ça allait déjà bien, c'est ça? Lorsque Barack Obama part, ça allait assez bien, on n'avait pas besoin de stimuler.
Ça allait déjà bien. Si on regarde, en fait, le taux de chômage, depuis 2010, on est passé d'un taux de chômage de 10% depuis 2009, d'un taux de chômage qui était à 10% à 4,7% quand Trump arrive. Donc on avait déjà réduit le taux de chômage. Et ce taux de chômage, il continue d'être réduit. On est aujourd'hui à 3,7. Si vous regardez la tendance des créations d'emplois depuis 2012, on a le même rythme de création d'emplois. On est sur 200 000 créations d'emplois chaque mois depuis 2012. Donc, il n'y a pas vraiment de changement de tendance.
Trump, comment diriez-vous, il ne fait pas cette croissance puisqu'elle est déjà là.
Alors, il en fait une toute petite part. Et il en fait une petite part non pas par sa réforme fiscale, qui bénéficie aux plus riches et qui génère pas de dépenses, beaucoup de dépenses supplémentaires, mais essentiellement par quelque chose qu'on n'a pas bien vu ou qu'on met pas souvent en avant, qui est une augmentation en plus des dépenses budgétaires, en particulier en matière de défense. Et ça fait 0,3 points de PIB, donc ça stimule un peu l'économie à un moment où elle n'en avait pas besoin.
Donc ça allait déjà bien, mais les chiffres sont encore un peu meilleurs, il améliore un peu la situation. Est-ce que c'est suffisant pour donner confiance en l'avenir? Notre correspondant à New York s'est rendu à Wall Street pour interroger ceux qui connaissent le prix de la confiance et qui l'évaluent chaque minute. Ce que pense le monde de la finance de Donald Trump, c'est le reportage de Loïc Loury.
Quelques kilomètres au nord du Financial District, nous sommes dans le quartier de Midtown, à Manhattan. De plus en plus de banques ou de fonds d'investissement s'y installent, celui notamment de Georges Hugeux.
Bonjour, Georges Hugeux, je suis le président de Galileo Global Advisor et en même temps professeur adjoint à la faculté de droit de Columbia University.
Mais Georges Hugeux a surtout été numéro 2 à la Bourse de New York.
Alors Wall Street s'occupe de Wall Street, donc Wall Street est relativement content de ce que Trump a apporté à Wall Street, c'est-à-dire des réductions d'impôts, toute une série d'avantages liés au budget qu'il a fait. Donc, je dirais, il y a un côté de Wall Street qui est très clairement satisfait des mesures prises par Trump. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils soutiennent Trump totalement.
La relation, à vrai dire, n'avait pas bien commencé. Trump se présentait après tout comme un candidat anti-système il y a 2 ans. Thomas Julien, économiste chez Natixis.
Donald Trump ne revendiquait pas d'appartenance à Wall Street du tout. Il ne revendique toujours pas. Il tenait des propos d'ailleurs assez durs sur les banques qui s'en étaient bien sorties après la crise. Il voulait taxer beaucoup plus la rémunération des banquiers, réglementer, faire tomber, démanteler les grosses banques. Donc il avait cette volonté un peu de rétablir une forme d'injustice ou un sentiment d'injustice qui avait été laissé après la crise.
Mais Donald Trump ne tiendra jamais cette promesse, tout en s'attelant rapidement à la dérégulation de Wall Street qui aujourd'hui s'incline face à la bonne marche de l'économie. La place financière avait soutenu Hillary Clinton pendant la présidentielle. Elle fait désormais profil bas sur la politique. Grégory Volokhin préside le groupe Mescart aux États-Unis et gère un fonds en actions.
Donald Trump, toute sa vie, a courtisé Wall Street. Et toute sa vie, Donald Trump a été repoussé par Wall Street. On n'aimait pas Donald Trump à Wall Street. Et là, en fait, il a vraiment pris sa revanche parce que en faisant, disons, ses plans de baisse d'impôts, non seulement il a enrichi énormément tous les gens de Wall Street, mais je dirais que d'une certaine façon, Wall Street lui mange un peu dans la main en ce moment. On les entend plus vraiment, si ce n'est de temps en temps pousser quelques petits cris d'indignation. Mais en attendant, ils sont quand même main dans la main avec les Républicains et avec Donald Trump.
Il les a forcés à l'aimer, en fait.
Vous savez, ce que Wall Street aime, c'est les profits et c'est l'argent. C'est pas la personnalité de Trump. Donc, c'est pas qu'il les a forcés à l'aimer, il les a achetés d'une certaine façon.
Et Wall Street espère donc peut-être secrètement une victoire de Trump au mid-terme, cela malgré un léger moins bien ces dernières semaines. Voilà comment Georges Hugeux résume cette relation et évoque la suite.
Aigre doux, il y a un élément de lune de miel, mais il y a un élément d'inquiétude. Et je dirais que le monde de la finance ne sait pas très bien où se positionner. Mais il est en train de découvrir que les chiffres sont inquiétants. Et la chose que nous savons tous, c'est que le monde de la finance n'aime pas l'incertitude. Et je pense que nous allons devant quelques mois de très grande incertitude.
Incertitude, on va y venir, hein, sur d'autres chiffres que ceux de la croissance, que ceux de l'emploi qui peuvent être inquiétants. Je suis toujours avec Florence Pisani, économiste chez Candriam, et Emmanuel Le Chip, BFM Business. On parle des États-Unis, de la santé de l'économie américaine. Florence, est-ce que on a entendu là le monde de la finance, Wall Street, est-ce que les entreprises se félicitent de Donald Trump à la Maison-Blanche? Toutes les entreprises, ou bien est-ce qu'il faut faire une sélection, ouais?
Les entreprises, d'abord, elles ont vu des baisses d'impôts. Donc ça, forcément, elles s'en félicitent.
Dans quelle proportion ?
On avait un taux d'imposition qui était à 35%, hein, qui est passé à 25%. Donc on a eu de fortes baisses d'impôts du côté des entreprises américaines. Et ça, la plupart, effectivement, s'en félicitent. Est-ce qu'elles vont toutes bien ? La réponse est non. Hein. On a quand même une augmentation du taux d'endettement des entreprises américaines sur les dernières années. On voit des prêts de plus en plus risqués, hein, qui sont en train d'être accordés à un certain nombre d'entreprises américaines. Et en même temps, ce qu'il faut rappeler, c'est qu'on est plutôt en train de relâcher la supervision financière. On est en train de déréglementer et de revenir sur les règles de prudence financière qui avaient été mises en place après la grande crise financière. Et ça, Janet Yellen, il y a une semaine, commence à s'en inquiéter.
Janet Yellen, qui était la numéro 1 de la Réserve fédérale américaine, ou la Banque centrale.
C'était l'ancienne présidente de la Réserve fédérale que Trump a remplacée en arrivant, par quelqu'un d'ailleurs qui suit à peu près la même politique qu'elle, il faut bien le préciser.
Et ce qui est d'ailleurs assez rassurant.
Et ce qui est plutôt rassurant.
Ouais. Donc les entreprises, alors on entend parfois, la Silicon Valley, elle est comment par exemple? Les grandes entreprises, les GAFA, ils sont comment par rapport à Trump?
L'Amérique anti-Trump. Ouais. C'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'économie, c'est l'Amérique mondialisée. C'est-à-dire, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire que l'économie américaine qui va bien aujourd'hui, c'est cette économie qui diffuse au monde, qui est ouverte sur le monde. C'est l'économie des GAFA, c'est l'économie de l'entertainment, le cinéma, Netflix, etc. C'est l'économie de la finance. Voilà. Et donc... Tout ça, ça va très bien sans Trump. Alors, il y a effectivement les baisses d'impôts qui sont très intéressantes. Il y a eu aussi un autre volet de la réforme fiscale, ça a été cette baisse massive sur les profits réalisés à l'étranger. Pour inciter les entreprises à rapatrier tout cet argent qui dormait à l'étranger, notamment dans les paradis fiscaux. C'était le cas d'Apple, notamment. Et là, on parle de 3000 milliards de dollars environ. Mais vous voyez que dans cette réforme fiscale, qui aurait pu apparaître comme un élément très structurant de la compétitivité future des entreprises américaines. Il y a beaucoup d'éléments qui sont ponctuels en fait, et je partage la déception de Florence par rapport à ça. C'est que il y a des incitations ponctuelles, mais il n'y a pas de mesure qui soit capable de doper la compétitivité à long terme. Demander aux entreprises qui ont subi l'effet protectionniste, qui achètent plus cher, leurs biens, leur acier à l'étranger, etc. Donc toutes les entreprises ne sont pas
C'est pas très surprenant. Hein. On crée un climat d'incertitude. Ouais. Et ce dont ont besoin les entreprises pour investir et préparer l'avenir, c'est plutôt d'avoir un climat rassurant. Et là, elles en savent rien. On est en train de changer les règles du commerce mondial. Et toute cette incertitude, ça les pousse plutôt à reporter leur projet d'investissement.
Et est-ce que ça marche?
Attendez, c'est très important parce que cette marque de Donald Trump, que c'est tout pour le présent, si vous voulez, il faut le redire. Et quand vous faites tout pour le présent, évidemment, ça brouille votre vision de l'avenir. C'est gênant pour l'investissement. Quand je dis tout pour le présent, cette réforme fiscale, elle est quand même globalement tout pour le présent, puisque vous hypothéquez l'avenir, vous creusez
les déficits. On laisse d'ailleurs à l'administration suivante.
Les déficits futurs. Sur tout ce qui est suppression de réglementation, etc., on peut s'en réjouir en se disant « Ah bah ça y est, l'économie américaine est plus souple, je crois qu'on a supprimé la moitié des 45 000 pages des codes de réglementation », mais c'est beaucoup de réglementation environnementale. Donc sur le plan environnemental, on ne prépare rien de l'avenir. Sur le plan gestion du monde, on ne prépare rien de l'avenir.
Donc c'est le président de l'ultra-présent, Florence Pisani. Est-ce que le fait qu'il mette des taxes, Emmanuel en parlait, sur l'acier, est-ce qu'au moins il y a des entreprises qui s'en félicitent? Est-ce qu'elles ont peut fabriquer plus, voilà, est-ce que le protectionnisme ça marche?
Alors ça marche pas très bien, il y a très peu d'entreprises qui en bénéficient directement, mais c'est un peu comme les promesses de campagne qui avaient été faites, on va réouvrir les mines de charbon, faut se rappeler de cette promesse. Trump est allé inaugurer peu après son élection la réouverture de mines de charbon. Quand on regarde les chiffres dans le détail, on a créé 2000 emplois dans les mines de charbon. On a créé 100 000 emplois dans l'industrie minière, mais c'est essentiellement des emplois qui sont liés au fait que le prix du pétrole est en remontée. On a du pétrole et du gaz de schiste qui ont été remis en marche et on crée un peu d'emplois. Mais dans les mines de charbon, on a créé 2 000 emplois sur 4 millions d'emplois depuis 2 ans. C'est-à-dire rien du tout.
Est-ce que l'électorat de Trump, ça, il le voit ou est-ce qu'ils sont satisfaits? Alors, Florence Pisani.
L'électorat de Trump, il est sensible plus au discours de Trump qu'à ses actes. Et ses discours, c'est de dire, regardez, symboliquement, je vais réouvrir des mines de charbon, symboliquement, je vais vous protéger. Et il est sensible pour l'instant à ça. Dans la réalité, ce qui bénéficie des mesures de Trump, c'est peu probable. Si vous regardez, il y a un chiffre important, c'est le taux de participation des hommes du cœur de la population américaine. C'est-à-dire, parmi les hommes en âge de travailler, combien cherchent un emploi ou ont un emploi aujourd'hui aux États-Unis. Et ce taux de participation de ces hommes âgés de 25 à 54 ans, il est toujours très bas et il n'est pas remonté depuis Trump. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont quitté le marché de l'emploi et qui sont pas revenus, tout simplement parce qu'ils sont découragés, certains sont en incapacité. Et ces gens-là, ça fait partie du cœur de l'électorat de Trump. Et donc on voit pas leur situation s'améliorer fortement.
Emmanuel Lechypre, la question, donc c'est la surchauffe, vous nous le dites. Est-ce que les économistes qui disent on va avoir une récession, ont raison? Est-ce que Madame Soleil, que dites-vous ?
Alors, tout sage économiste ne vous donnera jamais une prévision et une date en même temps. Donc voilà, ceux qui l'ont fait jusqu'à maintenant ont tendance plutôt à se tromper. On a Nouriel Roubini, vous savez, qui était le grand gourou de la crise de 2008, qui nous dit qu'il y aura une récession en 2020.
Ça fait 3 ans qu'il l'annonce.
Alors voilà, la réalité, c'est qu'en plus, ce qu'il faut bien se rappeler, c'est que jamais celui qui a été le gourou d'une crise n'a été aussi le gourou de la crise suivante. Parce que vous pouvez pas avoir la baraka.
Bon d'accord, vous avez pris toutes les précautions. Maintenant,
oui,
dites-moi
voilà.
S'il vous plaît.
Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de numérologie. Oui. Les gens qui vous disaient ah ben oui mais il y a une récession américaine tous les 6 ou 7 ans donc va y en avoir une, ça c'est de la numérologie. La réalité c'est qu'une récession elle vient de déséquilibre profond au sein d'une économie.
Et bah quand là, vous regardez, nous les avez montré.
Alors justement, qu'est-ce qui pourrait provoquer justement une récession? Est-ce que c'est par exemple l'endettement des ménages comme ça a été souvent le cas? Bah non, la situation financière des ménages américains, elle s'est plutôt améliorée depuis la crise de 2008. L'endettement des entreprises, bon Florence a signalé quelques cas inquiétants. Mais globalement, la situation n'est pas catastrophique. L'immobilier, comme c'est souvent le cas, bon oui, c'est vrai que les prix sont élevés, notamment dans le bureau, mais enfin pas au point d'être une bulle terrible. La fameuse titrisation de 2008, vous savez, c'est...
Les produits financiers
ça,
toxiques,
ça représente,
là.
Ça représente des sommes qui sont 5 fois inférieures à ce que c'était à l'époque. Le prix du pétrole, il faut se rappeler qu'il n'a pas un effet très important sur l'économie américaine, puisque 60% du pétrole qui est consommé aux États-Unis est aussi du pétrole qui vient des États-Unis. L'inflation, on a quand même du mal à y croire. Il y a le risque qui est toujours le même risque. Parce que n'oubliez jamais ceci, c'est qu'on a toujours l'impression que c'est l'économie réelle qui détermine le niveau des marchés financiers. Mais la réalité, c'est que dans l'économie de bulle, comme on la vit depuis le milieu des années 80, l'économie du capitalisme financier qui a pris une place phénoménale, ce sont les cycles financiers qui influencent les cycles économiques. Donc la question, c'est est-ce qu'il y a des bulles aujourd'hui sur les marchés financiers qui sont susceptibles d'éclater, de provoquer des effets d'appauvrissement chez les ménages américains et donc une récession? Oui, on peut dire qu'il y a quelques secteurs, comme le secteur des hautes technologies notamment, où il y a sans doute des excès de valorisation. Mais la menace, elle viendra plutôt, à mon avis, d'un accident sur les marchés financiers.
En même temps, la bonne nouvelle, c'est qu'on a quand même un pilote qui est dans l'avion, qui n'est pas le gouvernement, mais qui est la Réserve fédérale. Et que la Réserve fédérale, elle a géré jusqu'à présent assez bien son cycle économique. On est quand même dans une situation dans laquelle les revenus des ménages sont en train de progresser rapidement. Ça assure un socle de croissance à la consommation. Ce qui crée la vraie incertitude, pour moi, elle vient essentiellement de la politique commerciale, parce que ça est en train de créer un retournement de l'investissement des entreprises. Si on va beaucoup plus loin dans la guerre commerciale, on a un vrai risque que les entreprises reportent leurs projets d'investissement et reportent leurs embauches.
Florent, justement,
sur la finance, il faut juste rappeler quelque ouais. chose quand même qui s'est ancré dans la culture, y compris de la Banque centrale américaine. C'est qu'on considère finalement, parce qu'on se dit « Oh, les bulles financières, c'est dangereux, quand ça éclate, ça fait une crise, etc. » Et ben la culture dominante aujourd'hui, c'est de dire « Mais attendez, il y a plus d'avantages à laisser se gonfler les bulles et à laisser se générer toute la richesse et la prospérité pendant les périodes de gonflement de bulles, quitte à gérer la bulle après, plutôt que d'empêcher le gonflement des bulles. » Donc l'économie américaine aujourd'hui, c'est une économie dans laquelle on laisse délibérément les marchés financiers aller très haut, en se disant qu'au final... ça crée plus de bénéfices pour l'économie américaine.
C'est pas juste une culture dominante, si vous regardez, en fait, c'est aussi les leçons du passé. C'est-à-dire
alors
que quand Greenspan avait essayé d'arrêter la bulle boursière des années 2000, il avait eu le plus grand mal. Il avait commencé à dire, il y a une bulle boursière et ça avait pas marché. Et donc, les leçons qu'il en a tirées, c'est que c'est plus facile de gérer le dégonflement de la bulle en menant une politique extrêmement accommodante plutôt que de casser les bulles boursières. Il a pas forcément raison sur ce point-là.
Mais ça n'empêche que nous sommes entrés dans ce que beaucoup appellent l'économie de bulle, où c'est l'économie, les marchés financiers qui rythment la vie de l'économie réelle et pas le contraire.
Alors, sur les risques, Florence parlait du protectionnisme, le protectionnisme américain, le bras de fer avec la Chine, n'est-ce pas l'escalade sur les taxes douanières? Je vous propose de filer à Pékin.
全球新闻，中国播报。各位好，欢迎收看这一节中国新闻。我们来看详细内容。
Bonjour Dominique André.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes la correspondante de France Inter en Chine. Alors dites-nous Dominique, comment Donald Trump est-il vu par Pékin?
Alors, avec inquiétude du côté du gouvernement, souvenez-vous, il y a 2 ans, la presse gouvernementale chinoise accueillait avec soulagement la victoire de Donald Trump parce qu'elle craignait avant tout celle de Hillary Clinton et en particulier la fameuse politique du pivot asiatique que les démocrates voulaient mettre en place. pour contrer la montée en puissance de la Chine en Asie. Eh bien, c'est tout l'inverse aujourd'hui. La Chine a été accusée il y a quelques semaines de vouloir faire perdre les prochaines élections à Donald Trump, ce que Pékin a démenti. La Chine a mis du temps à comprendre que Donald Trump n'était pas un ami. La Chine a compris que la guerre commerciale allait durer longtemps et que ce serait aussi une guerre pour contrer l'affirmation de la Chine en tant que puissance centrale, terme du discours de Xi Jinping au 19e congrès du Parti communiste l'an dernier. Les Américains pensent que la Chine est un problème et Donald Trump le dit.
Dominique, et les patrons occidentaux qui travaillent en Chine, ils sont aux premières loges de cette bataille. Quel est leur regard sur le président des États-Unis ?
Alors, un patron d'une société américaine à Pékin disait récemment « Je ne suis pas un fan de Donald Trump, mais j'espère qu'il ira au bout de son idée ». Les compagnies étrangères en Chine, qu'elles soient américaines ou européennes, se plaignent depuis des années des conditions imposées par le gouvernement chinois aux sociétés étrangères qui veulent accéder au marché local, comme le transfert de technologies obligatoires, et puis il y a aussi les vols de brevets, le non-respect de la propriété intellectuelle. Tout cela est critiqué dans les rapports des chambres de commerce américaines et même européennes. Donald Trump le dénonce publiquement et il est le premier à le faire en tant que président des États-Unis. Un diplomate occidental disait aussi récemment « Donald Trump dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas ». Aujourd'hui, il est clair que la Chine et les États-Unis ont une vision concurrentielle du leadership, ce qui n'empêchera pas Donald Trump et Xi Jinping de se voir prochainement en bilatéral au sommet du G20. En Argentine.
Florence Pisani, vous dites que c'est la plus grande menace finalement, Trump sur le commerce. C'est la plus grande menace pour les US, pour les États-Unis eux-mêmes.
Alors, pas seulement pour les États-Unis, mais y compris pour les États-Unis. Hein. Pour l'instant, ce que Trump a fait sur le commerce, ça ressemble plutôt à des escarmouches. C'est-à-dire qu'on a augmenté les droits de douane sur la Chine de 25% sur 50 milliards et puis de 10% sur 200 milliards. Le risque, c'est qu'il veuille aller beaucoup plus loin. Et ce qui se joue, c'est pas seulement le rééquilibrage du déficit américain, mais c'est vraiment une course technologique, hein, une guerre à la technologie. Si vous regardez le déficit bilatéral entre la Chine et les États-Unis, la façon dont il s'est creusé sur les dernières années, il y a trois secteurs dans lesquels il s'est creusé fortement. Ça n'a rien à voir avec le textile ou l'habillement.
Ou l'acier.
Ça s'est creusé essentiellement dans tous les secteurs de nouvelles technologies, les ordinateurs, les télécommunications et les semi-conducteurs.
Donc en fait, ce qu'il essaie de faire, il nous parle d'industrie, etc. Mais ce qu'il essaie de faire, c'est de mettre des boulets au pied des Chinois pour les empêcher de courir.
Je pense que c'est la seule stratégie. C'est-à-dire qu'en gros, l'idée, c'est de retarder la montée en puissance technologique de la Chine en interdisant des investissements chinois aux États-Unis, et c'est encore une ça fait encore une fois partie de ces combats du présent qui ne prépare pas l'avenir pour l'économie américaine.
Florence, est-ce que lorsque Donald Trump dit regardez, j'ai renégocié les accords commerciaux, est-ce qu'il obtient beaucoup de choses?
Alors, les mauvaises langues disent que le NAFTA, c'est le NAFTA 0.8. Hein, donc, ce qu'il a renégocié avec le Mexique et le Canada, finalement, c'est pas grand-chose et ça changera pas radicalement la compétitivité des entreprises américaines.
Est-ce qu'on sait ce qu'il veut faire dans les deux ans qui viennent, Donald Trump? On arrive un peu au terme de cette discussion. Et si le résultat des midterms peut l'entraver, jouer un rôle? Parce qu'il n'a pas l'air d'écouter grand monde. Alors, est-ce que le résultat des urnes...
Disons que la liste des réformes qu'il propose n'est pas extrêmement fournie pour les deux ans qui viennent. Donc, à la limite, s'il est empêché, ce sera moins gênant. Et il n'y a qu'une seule réforme qui paraissait intéressante pour, justement, préparer l'avenir. C'était ce grand plan d'investissement dans les infrastructures qui est pour le moment en stand-by. Et là, on se dit, après tout, s'il gagne et qu'il l'a proposé, qu'il le mette en œuvre. Et si c'est les démocrates qui gagnent, on a l'impression qu'ils pourront en partie soutenir une partie de ces mesures, parce que c'est quand même un plan keynésien.
On est complètement d'accord. C'était la seule bonne idée du programme de Trump, c'était ce plan d'infrastructure. Tous les gens qui ont voyagé aux États-Unis savent que les infrastructures aux États-Unis sont dans un état déplorable. Donc relancer, avoir un grand plan d'infrastructure, quand vous voyagez de New York à Washington par le train rapide, vous mettez trois fois plus de temps pour une distance qui est la même qu'entre Paris et Bruxelles. Donc il y a un vrai problème d'infrastructure sur le territoire américain.
Et donc l'impact de ces midterms, d'un mot, est-ce que ça peut l'entraver, ou au contraire, non?
Alors s'il a une majorité, on peut plutôt craindre qu'il veuille mettre en place sa réforme de baisse d'impôts 2.0, et ce serait vraiment pas une bonne nouvelle, ça prépare pas l'avenir, et ça dégradera encore plus le déséquilibre budgétaire.
Florence Pisani et Emmanuel Le Chypre, les experts de ce samedi 3 novembre, merci, restez avec nous. L'invité du Mag Echo est entré en studio.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Et c'est le président délégué du Conseil d'analyse économique, Philippe Martin. Bonjour.
Bonjour.
Alors on dit président délégué parce que le président, en réalité, c'est le Premier ministre.
Absolument.
La mission du Conseil d'analyse économique, c'est...
C'est de conseiller le gouvernement, donc le Premier ministre, le ministre des Finances, sur un certain nombre de sujets. Ça peut être des sujets que soit nous, on leur propose, soit ce sont des sujets qu'ils nous proposent. Par exemple, on va faire à la fin de l'année une note sur la question des impôts de production, sur la question des charges, sur est-ce que ça a un impact sur la compétitivité.
Les impôts de production, juste, ce sont les impôts qui touchent particulièrement
les entreprises,
les industries,
et non pas sur leurs profits, mais souvent sur leur chiffre d'affaires. Et comme vous le savez, c'est quelque chose qui est assez spécifique à la France, et donc on peut se poser la question si ça a un impact sur la compétitivité des entreprises. Donc voilà, c'est le type de questions auxquelles on essaye de répondre et auxquelles on essaye de donner des suggestions ou des recommandations.
Alors, puisqu'on démarre sur la France, restons-y. Avec cette casquette donc de président du Conseil d'analyse économique, mais vous en avez une autre. C'est vrai qu'on sait que vous avez travaillé sur le programme d'Emmanuel Macron.
Et j'en ai une troisième, je suis professeur d'économie à Sciences Po.
Et vous êtes professeur spécialiste d'économie internationale, c'est pour ça que je voudrais parler avec vous aussi de Trump et d'Europe. Mais si on commence par la France, restons-y. Est-ce que vous êtes inquiet de ce niveau de grogne sur le pouvoir d'achat ?
Il n'est pas totalement étonnant. On a un peu oublié qu'il y a des chocs pétroliers. Ça nous est arrivé à la fin des années 70, au milieu des années 70 et à la fin des années 70. Et dans une certaine mesure, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. On a une grosse augmentation des prix du pétrole et qui se retrouve à la pompe. Il y en a deux tiers, c'est les prix du pétrole, un tiers, c'est les taxes. Et la grogne, elle est sur le tiers restant donc des impôts. Je comprends en effet cette grogne sur le pouvoir d'achat. Et en plus, je pense que ce qui s'est passé en début d'année où on a augmenté la CSG, mais on n'a pas fait immédiatement la baisse des charges salariales, je pense qu'il y a eu un petit décalage. Comme vous le savez, l'INSEE prévoit une augmentation assez forte du pouvoir d'achat maintenant, en fait, en fin d'année, puisque la baisse des charges...
C'est-à-dire au début, ça a été un très mauvais moment. Et là,
on l'a vu dans les chiffres de la croissance sur la consommation, parce qu'au même moment où on avait l'augmentation des prix du pétrole, vous aviez une augmentation d'un certain nombre de taxes. Donc en fin d'année, ça va être mieux, puisqu'on va avoir maintenant la baisse des charges salariales, la taxe d'habitation, etc.
Alors justement,
mais on va avoir donc du coup un profil plus heurté de la consommation. La consommation n'a pas été très bonne en début d'année. On a vu les chiffres là du troisième trimestre où la consommation redémarre. Si on reprend la question des taxes sur le pétrole, l'essence, etc. C'est aussi quelque chose. On parlait du long terme tout à l'heure. On prépare l'avenir, c'est-à-dire que on peut pas à la fois dire faut préparer la transition énergétique. C'est ce qu'on appelle la trajectoire carbone qui a été mise en place en fait par le dernier gouvernement. Et en effet, on sait que les taxes sur le CO2, sur les émissions de CO2, c'est la meilleure manière de changer les comportements des agents économiques.
Mais donc il y a cette grogne, il y a des gens particulièrement touchés. On pense aux territoires,
absolument,
aux ruraux. Est-ce qu'on fait assez pour les aider ? Est-ce qu'on peut faire plus pour les aider ? Si vous me dites qu'il n'y a pas d'alternative, là vous êtes en ligne avec le gouvernement, c'est en effet ce qu'il
Non, je pense que ce qu'il faut, c'est il ne faut pas mentir sur le signal prix. C'est-à-dire, c'est ça ce que dit un économiste. Un économiste, il dit, si les émissions de carbone, la pollution, c'est mauvais, eh bien il faut que ça se retrouve dans le coût. Donc ça, moi j'y suis tout à fait favorable. En revanche, en effet, ce qu'il faut, c'est aider les gens à faire cette transition énergétique. Donc c'est, et en particulier les plus modestes. Donc ça, c'est le chèque énergie. Je pense que peut-être on peut aller plus loin sur le chèque énergie, mais il faut garder le signal prix. Le chèque énergie, c'est une somme forfaitaire qu'on donne aux personnes pour aider à payer tout ce qui est facture énergétique. Et puis, il y a un certain nombre d'augmentations sur des minima sociaux. Est-ce qu'il faut aller plus loin ? Moi, je pense qu'il faut faire attention aussi sur la question budgétaire. On est en train de faire pas mal de baisses d'impôts. Je pense que c'est deux choses qui vont se voir, en effet, dans le pouvoir d'achat en fin d'année. Encore une fois, l'INSEE nous dit que le pouvoir d'achat va augmenter en fin d'année.
En juin dernier, après un an de pouvoir, avec deux autres économistes proches du candidat Macron, vous avez écrit une note assez sévère. Je vais la résumer dans mes mots. Attention à l'image d'un pouvoir indifférent à la question sociale. Est-ce que vous avez été entendu, Philippe Martin ?
C'était une note confidentielle au
président
et qui a été révélée. Non, ce qu'on disait, c'est que il faut en effet que, et c'était, je crois, ce qui s'était passé pendant la campagne. Il faut avoir une politique équilibrée. Et on était, on disait un certain nombre de choses assez précises. Par exemple, hein, on était favorable à une transformation des impôts de succession. Parce que, en effet, on voit ce débat sur les inégalités de patrimoine monter.
Et ça, ça a été refermé.
Et ça, ça a été refermé, mais
très récemment.
Bon, voilà, c'est un débat. Je pense qu'à un moment ou à un autre, on le rouvrira. Peut-être, d'ailleurs, le Conseil d'analyse économique le rouvrira. Je pense qu'on peut faire des réformes sur ce sujet. Et c'est pas des réformes contre les personnes âgées. Hein. Je pense que la réforme sur les impôts de succession, c'est en particulier sur les très riches.
Philippe Martin, on passe à l'international. Vous parliez à l'instant de l'importance du budget. Attention à pas creuser le déficit. On entend la grogne aussi plus large en Europe sur cette fameuse règle des 3%, ne pas dépasser le 3% de déficit budgétaire. Est-ce qu'il faut la revoir, cette règle? Que disent les économistes?
Alors, on a écrit une note, en effet, en septembre, du Conseil d'analyse économique sur ces règles budgétaires. Je crois que la grande partie des économistes considère que ces règles telles qu'elles sont aujourd'hui sont incompréhensibles. Moi, je vous mets au défi d'essayer de les expliquer à qui que ce soit. Elles sont assez bêtes, en fait. Elles sont assez stupides. Hein,
contrairement à ce que dit Pierre Moscovici.
C'est-à-dire que le problème, c'est qu'on a bien vu, c'est des règles qui, lorsque la croissance va bien, font qu'on ne fait pas suffisamment de baisse de la dette. Et quand les choses vont mal, comme pendant la crise, elles amènent quand même à plus d'austérité. Donc on est dans une situation où elles sont ce qu'on appelle procycliques. Elles aggravent les récessions et elles font plutôt de la relance quand on n'en a pas besoin. Et elles sont très compliquées. Elles sont compliquées, ça c'est important parce que ça signifie qu'il y a un déficit démocratique et c'est en partie une des questions sur l'Italie, c'est-à-dire qu'on voit bien que les hommes politiques, et d'ailleurs je crois en France, en Italie, ailleurs, ne s'approprient pas ces règles budgétaires et donc du coup ça devient quelque chose qui est imposé par Bruxelles, alors que nous on considère qu'il faut qu'il y ait des règles budgétaires.
Alors justement, c'est la question, est-ce qu'il ne faut pas de contraintes? Parce qu'en gros les Italiens,
non,
il faut des contraintes
parce que en union monétaire, si à un moment un pays ne peut plus payer sa dette et ne peut plus se financer sur les marchés financiers, qu'est-ce qui va se passer? Il va demander de l'aide aux autres pays. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs pendant la crise de la zone euro. Il va aller à ce qu'on appelle le mécanisme européen de stabilité. Il va demander des prêts aux autres pays. Et donc immédiatement, les autres pays sont impliqués dans cette histoire.
Donc c'est le prix de la solidarité.
Exactement. Votre déficit, votre dette peut avoir un impact sur moi. Et donc c'est normal qu'on en discute et qu'il y ait des contraintes sur les règles budgétaires. Mais telles qu'elles sont aujourd'hui, elles sont incompréhensibles. Et elles sont mal ficelées, ce qui fait que aujourd'hui elles permettent pas une vraie réduction de la dette.
Tiens, j'ai l'impression qu'on est en train de briser un peu partout ce tabou, y compris vous les économistes.
Fait pas mal de temps que les économistes disent que ces règles budgétaires n'ont pas beaucoup de sens. Et d'ailleurs, Conseil allemand, qui est un peu le parallèle du Conseil d'analyse économique français, le Conseil allemand a aussi écrit une note en faveur d'une transformation de ces règles budgétaires. Et donc on voit bien qu'il y a une sorte de coalition des économistes pour dire ça marche pas très bien. Mais c'est pas la priorité des réformes de la zone euro et moi je le regrette parce que je pense que en effet c'est un débat important et il faut qu'il y ait plus d'économie, il faut qu'il y ait plus d'analyse économique dans la politique budgétaire. Pour le moment c'est surtout de la comptabilité et de la politique.
Allez Philippe Martin, une dernière question sur Donald Trump, l'économie internationale. Est-ce qu'il est en train de ralentir la croissance du monde entier avec cette guerre commerciale? Vous êtes un spécialiste du commerce international.
Alors pour le moment, on ne voit pas encore d'effets macroéconomiques très clairs de ces escarmouches. Hein. On parlait d'escarmouches de guerre commerciale. Mais c'est vrai que c'est un choc d'incertitude, c'est un choc d'imprédictibilité. On ne sait pas ce qui va se passer dans les mois et les années qui viennent. Et donc ça, clairement, ça peut avoir un impact sur l'investissement. Moi, je ne crois pas que ça peut en soi créer une récession, sauf si ça prend une ampleur telle que ça se transforme en crise financière. Les vraies crises, ce sont les crises financières. Et donc, c'est s'il y a une augmentation très très forte du risque et de l'imprévisibilité que ça se transformera en vraie crise macroéconomique.
Philippe Martin, le président délégué du Conseil d'analyse économique, merci d'avoir été sur France Inter ce matin.
Merci.
Sandrine Foulon, bonjour. Alors, la question ce matin, question de Sonia, elle est en CDD dans le médico-social et elle voudrait bien comprendre la différence entre les intermittents et puis ce nouveau mot, les permittents.
Permittant, Sonia, c'est tendance. En tout cas, c'est un vocable qui fait son comeback à chaque négociation sur l'assurance chômage. Et ça revient vite. En général, tout le monde connaît les intermittents du spectacle. Une fois qu'ils sont éligibles à l'assurance chômage, les critères d'entrée ont été durcis, ils reçoivent une allocation quand ils sont entre deux spectacles. Les permittants, c'est un peu pareil. Ils alternent période d'emploi et de chômage. Mais eux restent inscrits à Pôle emploi par défaut, en espérant trouver un meilleur job. 80% de celles et ceux qui sont en CDI à temps partiel accepteraient de passer à temps plein à la première occasion. En tout, près de 2 millions de personnes travaillent en activité plus ou moins réduite et parmi elles, 865 000 cumulent allocations et salaires. L'UNEDIC en a interrogé 5 000 d'entre elles en juin. Ces cumulards sont loin de toucher des sommes folles. En moyenne, ils perçoivent un salaire de 830 euros et une allocation de 490 euros.
Sandrine, le gouvernement, il aimerait bien revoir les règles. Parce que le problème avec la permittence, c'est de sortir de l'empilement des contrats courts.
L'objectif de ce cumul emploi-chômage est d'encourager la reprise d'emploi, même de courte durée, même moins bien rémunéré qu'avant. Aucun jour travaillé n'est perdu. Prendre un boulot prolonge les droits au chômage. Le problème, c'est que la permittence se concentre sur 10% de la population qui enchaîne les petits boulots dans une dizaine de secteurs, restauration, médico-social, audiovisuel. Lorsque le salaire est inférieur à l'allocation chômage, l'UNEDIC compense. Quand le salarié est entre deux boulots, c'est l'assurance chômage qui prend le relais. Mais ces permittants ont tendance à être réembauchés chez le même employeur. Selon l'étude de l'UNEDIC, c'est le cas de près de 60% des allocataires qui travaillent. La moitié d'entre eux a même signé au moins 4 contrats avec la même entreprise. Ce fonctionnement qui s'institutionnalise coûte cher à l'assurance chômage. 5,4 milliards d'euros d'allocations sont versés dans le cadre du cumul emploi-chômage. Quant à l'ensemble des contrats courts, ils représentent un déficit de près de 9 milliards par an. Le gouvernement voudrait bien limiter dans le temps la possibilité de conjuguer allocation et salaire. Le patronat, lui, aimerait bien que les intermittents participent à l'effort de guerre, même s'ils le font déjà. Le montant des allocations versées a diminué pour les revenus élevés et le déficit baisse. Mais ça fait un autre point commun aux intermittents et aux permittents, Sonia. Ils sont considérés comme une source d'économie.
Sandrine Foulon, ma vie au boulot.